C'est bien de vous voir en vrai. Enfin, de vous voir à moitié, mais tout à fait en vrai. Amen, Seigneur. Il y a l'affection fraternelle, personnelle, pour certains avec une longue histoire, des décennies, pour d'autres moins. Et puis, il y a aussi ce bonheur de voir une église du Seigneur, une église locale que Dieu connaît, qu'il a connue d'avance et que Dieu aime. Et où Dieu, par son esprit, habite, comme c'est écrit. Parce qu'il fait de son église l'habitation de Dieu en esprit. Je propose de lire ensemble une partie de Romains 8. En fait, moi aussi, je suis en train de relire Romains. Et ça fait, je ne sais plus maintenant, 2-3 semaines. Hein, oui. En fait, j'ai l'impression de le lire pour la première fois et de commencer à comprendre Romains. Mais parce que nous sommes disciples, c'est-à-dire nous sommes en apprentissage. Et moi, comme tout le monde. Donc, du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre, mais aussi, puisque la division en chapitres ne donne pas le sens du texte, puisqu'elle n'est pas dans le texte original. C'est une commodité de mémoire et de lecture, la division en chapitres, puis bien plus tard en versets, les premiers versets du chapitre 9. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ. La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour et on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni littéralement l'en haut, ni l'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. La partie de lecture dans Romains 8 juste pour aider à la lecture et en l'occurrence à la prédication aussi, on peut dire qu'il y a on peut se dire qu'il y a trois parties, une première qui va des versets 28 à 30 inclus, hein, tout concourt au bien et qui finit par ceux qu'il a appelés, justifiés, les a aussi glorifiés. Et cette première partie, je propose comme un petit sous-titre, notre bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont... Notre bien, c'est le dessein de Dieu. Je veux dire que notre bien consiste, il est contenu dans son dessein. Si vous voulez, si je le cherche ailleurs, il y a une erreur. Ensuite, deuxième partie, que dirons-nous donc à ce sujet? Le texte lui-même suggère que c'est un peu une autre partie au sujet de ce qui a précédé. Que dirons-nous donc? Eh bien, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Voilà. Donc, sous-titre, si l'on veut, notre garantie, c'est la croix de Jésus. Et puis ensuite, à partir du verset 35, où il y a un accent sur l'amour de Dieu, de Christ, de Dieu, qui nous séparera de l'amour? Et donc, sous-titre, si l'on veut, son amour, c'est notre victoire. Puisque c'est dans cette partie que nous avons lu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueurs? On va le voir ensemble. Mais en un mot, et je ne fais pas de suspense, en un mot, être vainqueur, c'est ne pas être séparé de son amour. Et puis les quelques versets au début de Romains 9, c'est juste pour comprendre que nous, dans toute l'épître aux Romains d'ailleurs, c'est explicite très souvent, nous, eh bien, c'est tous les appelés tous les élus juifs, premièrement, et non juifs. Alors, première partie, notre bien est contenu dans le dessein de Dieu. Notre bien, c'est que Dieu, c'est la personne même de Dieu, si on veut aller au cœur, et c'est le fait que Dieu ait un dessein. Le mot dessein, littéralement, c'est bon plaisir. Alors, absolument pas au sens de caprice, au sens que ce qui plaît à Dieu est bon. Ce que Dieu veut est bon. Donc, le dessein de Dieu. Alors, on va relire simplement « Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ici, tout de suite, il est dit « Au profit de qui ? Au bien de qui ?» Vous voyez ? Ben, ceux qui aiment Dieu. Alors, on est bien obligé, accessoirement, de relever qu'il ne s'agit pas là de tous les humains. Du moins, en leur état naturel, voilà. Mais de nous, qui avons cru. Et donc, ce début de verset, tout de suite, dit quelque chose de notre part, enfin, concernant notre part, notre responsabilité. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. C'est Dieu qui fait mon bien. Cependant, évidemment que ma propre orientation de cœur, de foi en l'occurrence, d'obéissance à Dieu, de comportement, mes propres orientations contribuent à mon bien. Eh bien, la première chose que je peux faire pour moi-même contribuer à mon bien, c'est aimer Dieu. Et c'est, évidemment, c'est le premier et le grand commandement. Dieu l'a fait dire par Moïse et Jésus le redit amplement. Maintenant, c'est pas seulement, le texte ne dit pas seulement tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ici, il ne s'agit plus de la part que nous remplissons. Il ne s'agit plus de notre responsabilité. Mais il s'agit de ce que Dieu fait. Et alors évidemment, ceux qui me connaissent ne vont pas s'étonner de ça, pour moi c'est un plaisir immense, mais je me régale quand je lis ce genre de choses, un verset où il y a un verbe parlant de notre responsabilité, aimer Dieu, et 9 mots ou verbes parlant de ce que lui fait. Allez, on déroule ? Allez, on déroule. Donc déjà, ils sont appelés selon son dessein. Donc là, le sujet du verbe, c'est Dieu. Là, c'est implicite seulement. Mais le ton est donné. Si vous voulez, tout de suite, l'Écriture nous dit, ne crois pas que ce que toi tu fais, c'est la première part. La première part, c'est ce que lui fait. Voyez ? Parce que pourquoi on l'aime ? Parce qu'il nous a appelés. S'il ne nous appelle pas, on ne le connaît pas et on ne l'aime pas. Alors, ils sont appelés. Selon son dessein, il a un dessein, il a un vouloir qui est bon, il a un plaisir qui est bon. Ceux qu'il a connus d'avance, il a. Mais là, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est capital que ma foi soit pour socle ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Et non pas premièrement ce que moi je pense, etc. Donc, ceux qu'il a connus d'avance. Alors, on ne peut pas, dans le cadre d'une prédication, épuiser tout ce qui est contenu dans tous ces mots. Hein. Mais bon, il nous a connus d'avance. Dieu est premier. Il les a aussi prédestinés. Donc là, c'est une action, une volonté, une orientation de Dieu. En vérité, c'est pour ça que nous sommes convertis, un par un. Et prédestinés à quoi ? Et là, nous avons l'explication de qu'est-ce que c'est notre bien. Alors, j'étais parti 2 minutes là-bas, mais j'entendais bien quand même le témoignage précédent là, de quelqu'un qui a donné son épargne. Est-ce que mon bien, c'est juste que mon épargne s'amplifie. Alors, ça peut faire partie, on va voir tout de suite, on va voir plus loin, si c'est Dieu qui donne. Mais voyez, mon bien, c'est quoi? À quoi Dieu nous a prédestinés? À être semblables à l'image de son Fils. Je ne sais pas si vous êtes sensible au sens du mot promotion. Mais alors là, le mot, il est 1 milliard de fois surpassé. Il ne veut plus rien dire. Accessoirement, il n'est pas dans la Bible. Vous voyez? Voilà. Prédestiné. OK? Je reprends. Appelé, connu d'avance, prédestiné. À l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, j'y reviendrai. Et ceux qu'il a prédestinés. Et là, on entre dans une série de répétitions volontaires. Évidemment, le Saint-Esprit fait écrire les choses comme il a voulu. Ceux qu'il a prédestinés. 4. Il les a aussi appelés. 5. Et ceux qu'il a appelés. 6. Il les a aussi justifiés. 7. Et ceux qu'il a justifiés. 8. Il les a aussi glorifiés. 9. Voilà. Alors pourquoi ça me fait plaisir de compter, vous aurez remarqué. C'est juste pour montrer là qu'il y a une disproportion entre notre part et celle de Dieu. Et bien évidemment, c'est lui Dieu. Et alors, du coup, nous avons 3 fois le mot appeler. Et on peut, alors, des fois, s'il me semble que je n'ai pas de motif de louange, ben celui-là, il est permanent. Merci de m'avoir appelé. Et puis, en fait, c'est parce que tu m'avais prédestiné. Et puis, en fait, c'est parce que tu m'avais connu d'avance. Plus justement, théologiquement plus juste, la Bible ne dit jamais à un individu que Dieu l'a prédestiné. C'est toujours au pluriel. Alors, ça demeure vrai pour chacun de nous. Mais c'est ensemble. Pourquoi? Et là, je remonte. Quel est le dessein de Dieu, que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est-à-dire, c'est pas moi, Jean tout seul, l'individu que Dieu a prédestiné pour que j'aie une belle place dans le paradis. Alors il se trouve qu'il me donnera une place. Je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Mais c'est un grand nombre de frères, un collectif que l'Écriture appelle ailleurs, entre autres par le même auteur, Paul, la fiancée de Christ, et que l'Apocalypse, au jour de la fin, au jour où Jésus revient, que l'Apocalypse appelle l'épouse. Donc si vous voulez, ce n'est qu'au futur que l'Église universelle est l'épouse. Au présent, elle est la fiancée. Et alors là, tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Et son dessein de Dieu, le dessein de Dieu ne consiste pas en leur personne, en leur histoire. Ça vient en plus. C'est en prime, si vous voulez. Le dessein de Dieu consiste en ce que son Fils unique soit le premier. Mais c'est ce qu'on lit dans Colossiens, vous savez que c'est un texte qui m'impressionne et qui m'impressionnera jusqu'à mon dernier souffle et probablement encore plus après, puisque l'Écriture ne peut être abolie. Tout a été créé par Dieu, mais il est écrit aussi par lui, le Christ, et pour lui, voilà, il est le premier. Le dessein de Dieu, c'est la primauté de son Fils. Et mon bien, c'est d'être en partie au début, puis de plus en plus, puis pleinement, joint à son Fils. Je n'ai pas de vrai bien ailleurs. Et en fait, il suffit de regarder comment ça se passe sur Terre. Tout à l'heure, il a été parlé d'un décès, d'un ensevelissement. Si mon vrai bien, c'est simplement que quand je suis enfant, tout se passe pour le mieux, que quand je suis adolescent, je ne fasse pas une crise terrible et que je ne glisse pas dans les pires pièges du malin, et que ensuite mes études se passent bien, que j'ai un bon diplôme, que j'ai un bon métier, et puis que Dieu me conduise pour que je n'épouse pas n'importe qui non plus, mais selon sa volonté, et puis que nos enfants grandissent, et puis finalement que nous nous retrouvons des grands-parents respectés et aimés, et que nous sommes à peu près en bonne santé, nous pouvons encore conduire, venir visiter une église, aller voir nos enfants près de Mulhouse. Tout ça, ce sont des effets de la bonté de Dieu. Et en aucun cas, c'est zéro, en aucun cas c'est à mépriser. Mais notre bien véritable, ce n'est pas ça. Parce qu'admettons qu'on vive tout ça sans lui, mais après simplement on meurt, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc finalement, quelqu'un aura eu une vie extrêmement... Il y a des personnages comme ça, on se dit, mais ils ont eu aucune misère, eux. C'est impressionnant. Ils ont eu de la chance. Hein, toute leur vie, ils ont, hein, la chance et la santé. Vous voyez ? Eh bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, ne signifie pas, ils auront tout le temps de la chance. Alors, la preuve, eh bien, c'est ce qu'on a lu après. On a vu une liste de... Alors, si vous comprenez, tout l'amour de Dieu se concentre sur son Fils unique, et dans la proximité de ce Fils, et sous lui et en lui, comme tu l'as souligné, notre vie est cachée en lui. Et c'est Dieu qui nous a fait loger en lui. En lui, autour de lui, sous lui, là est le bien maximum. Nous en goûtons déjà. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des moments de communion avec Dieu, d'adoration particulière, d'immense joie dans telle ou telle obéissance, ou des révélations, ou un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Tu vois, ça donne une idée de où est mon bien. Voilà, là, auprès de toi, à la source. Amen. Donc, vous m'avez souvent entendu parler de ça, insister. Fasse Dieu que de plus en plus dans son Église, partout, on insiste là-dessus, et que chaque chrétien entende qu'il n'est pas lui, que ce n'est pas sa personne individuelle qui est le centre du dessein de Dieu. Autrement, Jésus qui est venu si glorieusement n'est que le moyen sublime, mais n'est que le moyen. Et le but, c'est moi. Or, c'est exactement l'inverse qui est écrit. Leur bien, c'est d'être appelé, connu d'avance, prédestiné, semblable à l'image de son Fils. Et le but de Dieu, afin que, le but c'est quoi ? Que le Fils soit premier. Et c'est probablement pour ça que louer Dieu est si important. Maintenant, la deuxième partie, j'allais dire qui est plus évidente, et qui sur laquelle on risque, le chrétien risque beaucoup moins de se décentrer, Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Quelques mots après sur qui accusera. Ici, nous avons clairement, tout. Ce tout inclut clairement des biens présents et terrestres, matériels, familiaux, affectifs, moraux, tout ce que vous voulez. Il nous donnera tout. Et Jésus l'a bien dit. Quand Pierre, je crois, ou d'autres lui demandaient, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Nous, que nous arrivera-t-il? Et il dit, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi, père, mère, bien, champ, maison, qui ne recevra au centuple. Et puis il dit, avec des persécutions. Alors là, il faut avouer qu'on peut dire, mais Seigneur, tu as une étrange conception de mon bien. Alors, oui, mais alors, c'est pas compliqué. C'est lui qui comprend ce qui est bien ou c'est moi qui comprends mieux? Donc lui, il sait. Et puis, il s'agit du bien éternel, hein, que personne peut détruire, peut me voler, peut nous voler. Alors, il nous gratifiera de tout. Le verbe même, là, il donnera, c'est de la famille de charisme, la grâce, charisme, les dons de grâce, etc. Il nous gratifiera de tout. Et c'est pour ça que la phrase finit en français par grâce. Il nous donnera par grâce. En d'autres termes, cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, donc nourriture, vêtements, etc., etc., vous seront données par-dessus. Et maintenant, alors une remarque en passant, si c'est uniquement pourvoir à notre nourriture, à nos vêtements, à notre santé, et à ce qu'on ait un toit sur la tête, et etc., etc., et un travail, etc., en aucun cas Dieu a besoin de livrer son Fils à la mort. Comprenez, la seule chose que la Bible relie au sang de Christ, c'est le pardon des péchés. Pour les plus grands miracles non plus. Il a arrêté le soleil, il a ouvert la mer, il a refermé, déjà dans l'Ancien Testament, il ressuscite des morts. Vous comprenez? Donc, simplement, il dit... Notre bien, qui est d'être semblable à son Fils et d'être joint à lui. Que dirons-nous donc au sujet de ce bien? Eh bien voilà, Dieu n'a pas épargné son Fils. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans les conditions actuelles en tant qu'humains sur la terre. Et aussi, et là, il y a quelque chose qui est, cette fois-ci, qui est directement connecté à la croix. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Donc explicitement, là, c'est dit, si vous voulez, dans cette partie, deux fois, le Saint-Esprit fait dire que notre garantie, c'est la croix. Il a livré son Fils, puis celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui accusera? Qui condamnera? Et là, Dieu justifie, on l'a vu, hein, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ça, c'est mon bien, d'être justifié. Et même enraciné dans la foi, même persévérant depuis longtemps, etc., etc., j'ai besoin que Christ soit ma paix. Vous savez que ma paix dans les circonstances, ma paix dans les épreuves, ma paix dans les troubles, ma paix en temps de guerre, le péril, l'épée, la paix concrète dans le vécu n'est qu'un effet second de la paix fondamentale. Et la paix fondamentale, c'est la paix avec Dieu. De telle sorte que, pour celui qui a cru, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, au sens là de perdition, de condamnation. Eh bien, c'est, il est réservé aux hommes de mourir une fois, oui, les chrétiens aussi, après quoi vient la rencontre avec votre Sauveur. Alors, il jugera son peuple. Ça, c'est écrit plusieurs fois, clairement. Simplement, pas pour le condamner, pour que le dernier mot sur toute chose lui revienne à lui. Donc, qui accusera ? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera ? Eh bien, la réponse à toute accusation, toute condamnation, c'est Christ est mort pour nous, comme il était écrit, comme Dieu l'avait dit bien à l'avance et comme lui-même l'avait dit. Voyez ? Alors, Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire bien plus ? En aucun cas, ça n'annule Galates 6, verset 14, je ne me glorifierai, Paul, le même auteur, écrit, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, le bien plus ne signifie pas, finalement, la croix est moins importante que vous ne l'avez pensé jusqu'ici. C'est simplement que nous sommes rachetés par le sacrifice de Jésus, mais pas seulement par le fait du sacrifice, par l'événement de la crucifixion. Nous sommes rachetés par le crucifié ressuscité. Si vous voulez, nous sommes rachetés pas uniquement par un événement, mais par une personne. Voyez, et c'est probablement le sens profond de bien plus. Puisqu'il dit, voyez la suite de la phrase, il est à la droite de Dieu. Dans Hébreux 7, il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voyez, donc quand Paul dit je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, en aucun cas il ne pense je me glorifie que d'un événement. Non, non, c'est de la personne qui s'est donnée pour être sacrifiée et qui est ressuscitée et qui est mon sauveur. Qui est mon sauveur ? Le crucifié ressuscité. Voilà. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors là, il y a une chose. Deux versets avant le début de notre lecture d'aujourd'hui, il est écrit que l'Esprit Saint intercède pour nous. Par des soupirs inexprimables. Et le verbe signifie « il surintercède ». Autrement dit, au verset 26 de Romains 8, l'Écriture nous ouvre les yeux en disant « écoutez bien, il existe une intercession au premier étage, c'est la vôtre ». Et c'est pour ça que j'ai dit Amen tout à l'heure quand Henri a dit « Est-ce que vous croyez que quand on loue le Seigneur, il se passe quelque chose ?» Parce que moi, j'ai pensé tout de suite aux coupes dont parle l'Apocalypse, les coupes d'or, et dedans, il y a un parfum. Et ce parfum, c'est les prières des saints. Et le mot « prière » dans la Bible, il est générique, et c'est un ensemble qui inclut la louange. C'est-à-dire, la louange, c'est de la prière, hein, puisqu'on parle à Dieu. Mais prière de remerciement, de reconnaissance, voyez, qui inclut la louange, les demandes, faites connaître à Dieu vos demandes, et puis l'intercession, c'est-à-dire quand on prie pour un autre que soi. Quand on demande pour un autre que soi. Il existe une intercession, des prières de demande, un premier étage. C'est celle du peuple de Dieu. Et elle est plus précieuse que je ne l'imagine, puisqu'on lit donc dans Apocalypse 5, vers le milieu du chapitre 5, et puis au début du chapitre 8, il est reparlé de parfums et de prières, cette fois-ci comme deux choses, mais associées. Autrement dit, tout le parfum du ciel n'est pas nos prières. Mais quand même. Voilà, ça c'est une intercession. Et puis, il y a une intercession un étage au-dessus. Celle de Christ et de son esprit. Qui intercède pour le peuple de Dieu. Et donc c'est écrit aussi, je l'ai dit, dans Hébreux 7. Il est toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui ont cru en lui. Et donc c'est pour résumer tout ça qu'on répète globalement dans les églises. Est-ce que tu sais que Jésus prie pour toi? Maintenant encore. Et, ça, et le résumé, il est juste, il est fidèle, hein, il ne trahit rien. Alors déjà, ça n'a pas de prix, déjà, le fait que des frères, des sœurs, toute mon assemblée prient pour moi, mes parents depuis mon enfance, peut-être mes parents ne le font pas parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, mais ma grand-mère le faisait, etc. Vous voyez, déjà ça, c'est un parfum devant Dieu. T'en compte, quand tu pries pour moi, c'est un parfum devant Dieu. Eh bien, il y a un étage au-dessus, Jésus et l'Esprit de Jésus prient pour nous. Prie le Père, prie Dieu pour nous. Alors là, vous comprenez que on a là ma compréhension de qu'est-ce que mon bien, amen. Et puis, dernière partie, qui nous séparera de l'amour de Christ? Je regarde là. La tribulation, l'angoisse, persécution, faim, dénuement, péril, danger, épée, la guerre, de manière figurée, la guerre, selon qu'il est écrit. Si je me suis fait une compréhension humaine, humaniste, positiviste ou je ne sais pas quoi, de qu'est-ce que ça veut dire tout concourt à mon bien. Quand j'arrive ici dans ma lecture, j'y vais tirer la sonnette d'alarme, je vais dire, Seigneur, Seigneur, il y a une erreur. Il y a une erreur. Si je me suis convaincu que tout concourt à mon bien, ça veut dire je ne vais jamais traverser rien de tout ça. Je ne connaîtrai jamais ni dénuement, ni angoisse, ni... Vous voyez? Alors déjà, je vais vite la lâcher, la sonnette d'alarme, parce que je me dis, ah, au jardin de Gethsémani, Jésus a tellement saisi d'angoisse qu'il a transpiré du sang. Et l'apôtre Paul, qui écrit ce que nous lisons aujourd'hui, il parle de ses angoisses à lui. Vous voyez, il y a quelque chose de faux à penser que si un chrétien a des angoisses, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas compris la vie, celui-là. Il n'a pas la foi suffisamment. Alors, il y a des angoisses qui n'ont rien à faire là. Il y en a qui sont des anomalies. Mais ben, quand tu sers Dieu et que tu traverses la persécution, etc., etc., ou des fois tu subis les traits enflammés du malin, des fois il y en a un peu plus, et mais il y a des angoisses qui font partie de... voyez. Donc tout concourt à mon bien ne signifie pas je serai exempt de tout mot, de toute douleur, de toute... voilà. Et donc, selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Alors j'espérais ce matin avoir le temps de dire un mot là-dessus. Et, bon, une fois de plus, je n'ai pas le temps. C'est une citation du psaume 44. Si vous le voulez, allez voir. Vous lisez le psaume 44. Qui parle des œuvres de Dieu au bénéfice de son peuple. Et puis, pendant voilà, les premiers deux tiers, vous allez dire, ça ressemble à beaucoup de psaumes. Et puis, au bout d'un moment, vous allez avoir une de ces surprises. Ça parle des calamités qui ont frappé le peuple. Jusque-là, ça ressemble à beaucoup de psaumes, à beaucoup de textes. Et puis, à un moment, l'auteur est en train de dire, mais nous t'avons pas renié, nous sommes restés fidèles. Et il y a quelque chose de rare dans ce psaume. c'est les souffrances du peuple vues, du peuple globalement infidèle, vues par ses membres fidèles. Et le ton ici, par cette citation du psaume 44, le ton est donné pour les versets qui suivent. Qu'est-ce que c'est être vainqueur? Et donc je vais là-dedans. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc vous aurez bien relevé dans toutes ces choses. Et non pas parce que nous avons la chance d'échapper tout le temps et automatiquement à toutes ces choses. Nous sommes, vous comprenez, dans, c'est-à-dire en les traversant. Nous sommes plus que vainqueurs, ce qui veut dire elles ne vont pas nous manger tout cru par celui qui nous a aimés. Voilà. Et là, nous avons la deuxième qui nous séparera de l'amour de Christ. Ici, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés, deux. Et puis, à la fin, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Voilà, donc là, il y a une triple insistance sur son amour. À relever de nouveau. Ça va? Vous êtes ça va à peu près? Parce que je suis conscient que le temps passe, j'aurais aimé être un peu plus concis. Non, j'aurais aimé être concis, je ne le suis pas. Là, les trois fois, il ne s'agit pas de notre amour pour Dieu. Alors, entendez bien, en aucun cas je veux que quelqu'un reparte d'ici en disant « Ah, j'ai compris que si j'aime insuffisamment Dieu, ce n'est pas si grave que ça. » Ce n'est pas le message. Hein. Mais être plus que vainqueur, dans le texte, ce n'est pas aimer Dieu plus que les autres ne l'aiment, ou plus que je ne l'aimais l'an dernier. Dans ce texte-ci, hein, attention, le progrès de notre amour vers Dieu fait partie, bien sûr. Mais ici, être plus que vainqueur, c'est ne pas être séparé de son amour. Parce que de nouveau, quand je suis comme attaqué par l'adversaire, quand j'ai des angoisses, ou quand personne, même le diable ne me condamne pas, mais c'est moi-même qui me condamne. Comme il est écrit, si notre cœur nous condamne. Voyez ? Eh bien, le sentiment de mon amour pour Dieu, il flotte, hein ? Il flotte. Mais c'est là où il n'est pas écrit « ton amour pour Dieu est ta victoire ». Mais il est écrit « son amour pour toi est ta victoire ». Et on comprend mieux qu'il dit que c'est par grâce qu'il donne tout. Alors il y a cette liste impressionnante là, ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, le présent, l'avenir, les puissances, l'en haut, l'en bas, rien, rien, rien ne pourra nous séparer. Et pourtant, quand tu es dans une angoisse, parce qu'il y a angoisse et angoisse, hein, des fois c'est A minuscule, puis des fois c'est A majuscule, ça devient physique. Mais là tu te sens séparé, plus ou moins, oui ou non? Et je veux dire, ne croyez pas que moi je suis exempt. Rien ne pourra nous séparer. C'est-à-dire que de son côté, objectivement, il n'y a pas de séparation. Voilà. Il est probable que quand le Seigneur sur la croix s'écrit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est un cri subjectif. C'est-à-dire que s'étant fait vrai homme, et en plus chargé de nos péchés et frappé de la condamnation sur le péché, que là, évidemment que dans son expérience du moment, il était séparé. Mais du côté de Dieu, non. Voilà, c'est probablement comme ça qu'il faut entendre « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Alors j'ai quelques mots de plus à dire. Ça va? Ça doit faire à peu près trois quarts d'heure que je parle, c'est ça? Un peu moins. Fallait pas me le dire, ça. quelques mots qui vont vraiment aider. En tout cas, moi, qui m'ont tellement aidé. Qui a dit de la manière la plus, j'allais dire, simple à suivre, la plus facile à suivre, qui a dit ce que c'est être vainqueur? Donc évidemment, c'est notre Seigneur. Et il le dit en sept expressions, en conclusion des sept lettres aux sept églises. Et à la fin de chaque église, il dit à celui qui vaincra, ou au vainqueur, peu importe, hein, je donnerai à manger de l'arbre de vie, etc., etc. Je le ferai asseoir, bon, etc. Il sera dans la maison de mon père comme une colonne, bon, etc. Et quand, si on met, très courte parenthèse, si on met bout à bout les sept, je lui donne, au vainqueur, je donnerai ça, donc les sept, ça, si on les met bout à bout, on a une grandiose vision du salut éternel. Voyez ? Les sept, ça, ce qu'il donne, ça dépeint ce qu'est le salut. Avoir l'arbre de vie, être assis avec Christ, ne plus jamais sortir de sa maison, bon, etc., etc. Alors, quand tu lis chacune des sept lettres, tu n'as aucun problème pour comprendre qui est le vainqueur aux yeux de Jésus dans chaque lettre. Puisque dans chaque lettre, il dit, il félicite, il complimente, et il adresse des réprimandes. Et il dit quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Tu laisses un tel qui se dit prophétesse enseigner mes serviteurs. Mais il y a de la souillure, de la séduction, bon, toutes sortes de choses. Sur les sept, cinq fois, il y a des reproches, et cinq fois, Jésus dit explicitement, repens-toi. Et à deux, les deux autres, il y en a deux où il n'y a pas de reproche. Donc la deuxième, enfin c'est les deuxièmes en partant du début et de la fin, la deuxième et la sixième. Et là, il dit d'être fidèle jusqu'à la mort physique. Donc là, il s'agit de persécution, etc. Être fidèle et tenir ferme. Par exemple, nous ici, nous ne sommes pas physiquement, violemment persécutés. Mais nous devons quand même tenir ferme contre toute séduction du malin, du monde, etc. Et donc, on comprend que pour notre Seigneur, être vainqueur, c'est deux fois sur sept, être fidèle, tenir ferme, et cinq fois sur sept, se repentir. Alors, je prends un exemple. Il se trouve que les choses se passent mal, je perds mon travail, je manque d'argent un peu, puis je manque d'argent beaucoup. Finalement, avec ma famille, nous sommes dans le dénuement. Ça veut dire nous manquons de tout. Si nous réagissons à cette situation avec péché, en jalousant ceux qui ont un bon emploi, avec de l'amertume, en voulant à Dieu. Dieu nous comprend quand on lui en veut, mais on pêche quand même, hein, parce qu'on n'est pas dans la reconnaissance et pas beaucoup dans la foi. Donc si je réagis avec péché, je ne suis pas vainqueur. Mais ce n'est pas le fait d'être dans le dénuement qui fait que je ne suis pas vainqueur. Si vous voulez, ma défaite, ce n'est pas le dénuement. C'est que j'ai réagi au dénuement avec péché. Maintenant, si une autre fois, puisque nous faisons des progrès avec Dieu, si une autre fois, de nouveau, j'ai peut-être pas un dénuement, mais autre chose, des angoisses formidables pour la santé de mon enfant, peu importe, et que je ne réagis pas avec péché, mais même en tremblant, même en pleurant, même ou pas, je suis fidèle à faire confiance. Ou si j'ai commencé en perdant confiance et en faisant des reproches à Dieu, et donc en péchant, mais que je me repens, et qu'ensuite je continue avec foi, avec prière, avec confiance, je suis vainqueur. Voyez ? Donc, tu peux avoir deux personnes ou deux familles ou deux églises locales qui sont dans le même dénuement ou la même angoisse, et l'un est vainqueur et l'autre est dans une défaite. Et on peut faire pareil pour les grandes richesses, grande abondance, richesse affective, morale, financière, intellectuelle. Je suis riche, Dieu m'a tant donné. Tant donné. Et je traverse ça. Je traverse. C'est plus facile à traverser que ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Je vis ça sans péché. Alors, on pêche tous par moments, attention. Hein. Mais globalement, ma richesse ne me pousse pas au péché. Je ne deviens pas égoïste. Je ne méprise pas ceux qui n'ont rien. Je ne cherche pas à m'enrichir le double pour clouer le bec à ma belle-mère, qui a dit quand on était fiancé à sa fille qu'avec moi, il n'irait pas loin. C'est péché, ça. Donc, si je ne réagis pas par péché, eh bien, avec mon immense richesse, peut-être des centaines de millions d'euros, pour un chrétien, je suis plus que vainqueur. Mais ce n'est pas mes millions qui font que je suis vainqueur. C'est que vivant avec ce que Dieu m'a donné, je vis avec lui. Et évidemment, je fais de ses biens, de ses richesses, je fais ce qu'il veut. Et donc, merci Seigneur pour le témoignage de tout à l'heure. Vous voyez ? Voilà, donne. Donc, vous comprenez, ni ma victoire, ni ma défaite ne consiste en mon dénuement ou en mon abondance, mais simplement dans le fait que c'est avec Dieu ou au contraire, j'ai glissé dans quelque injustice. Et là, il y a un début de défaite. Mais, dès qu'il y a repentir, il y a victoire. Amen. Amen. Je ne connais pas de verset dans la Bible qui fasse le lien entre le mot victoire, le verbe vaincre, le mot être vainqueur, enfin tous les mots de cette famille, ou triompher, ou tout ce qu'on veut, tout ça. Je ne connais pas de verset qui fasse le lien entre ces mots-là et le ministère, les miracles, les grands fruits. Je n'en connais pas. Parce que sinon, alors, moi qui vous parle, je n'ai jamais eu de vision. Directement par ma prière, j'ai vu peu de guérisons flagrantes, instantanées. Très peu. Donc moi, j'ai aucune chance d'être plus que vainqueur ici-bas. Je ne suis pas dans la cohorte des vainqueurs. Et c'est lui qui à qui Dieu a donné un don. Et d'en voir régulièrement. Ah, lui, il est plus que vainqueur. Même je vais peut-être être capable de le jalouser. Vous voyez ? Alors, inversement, si vous vous dites, ah ben lui, en parlant de moi, hein, il s'est converti à 17 ans, et la première lecture qu'il a faite du Nouveau Testament, il en savait des demi-pages entières par cœur, avec une lecture. Un cadeau surnaturel de mon Sauveur. Et puis Dieu lui donne, et puis Dieu l'a fait riche. Alors je ne suis pas en train de, vous aurez compris, hein, je ne suis pas en train de me... Mais je suis conscient de ce que Dieu donne, je suis reconnaissant. Mais quelle souffrance pour moi depuis plus de 40 ans, quand je sens qu'un frère ou une sœur se considère moins béni de Dieu que moi, parce qu'il n'arrive pas à se rappeler les numéros des versets. Et ça fait 40 ans que j'en pleure de ça. Mais non, il n'est pas moins vainqueur que moi. Parce qu'en aucun cas, mon don, c'est ma victoire. Paul, il dit, j'évangélise, je n'ai pas de récompense pour ça. Dieu m'a commandé de le faire, il dit même ça m'est imposé, je n'ai pas de récompense. C'est parce que c'est pas la grandeur de l'œuvre qui est récompensée, c'est la fidélité. Et celui qui ne se rappelle pas les numéros de téléphone de la Bible, hein, à part Jean 3,16, hein, celui-là, eh ben, c'est Dieu qui voit son cœur. Et il est fidèle dans la reconnaissance, dans la persévérance. Moi, j'ai une admiration sans borne pour certains membres d'église, femmes ou hommes, que je connais depuis 20, 30, 40 ans, et avec qui il n'y a jamais eu un problème relationnel. Je ne parle pas seulement avec moi, comme ça. Des membres d'église avec qui il n'y a jamais eu de problème. Ils sont riches. Ils sont riches en paix. Ils sont riches en amour. Amen. Voilà. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas un quart d'heure de plus pour les premiers versets de Romains 9, mais j'ai voulu les lire dans la suite pour comprendre, parce que ça m'a beaucoup touché, que Paul qui vient d'écrire « Rien ne nous séparera », et puis il dit « Si ça pouvait sauver mes frères israélites, moi je veux bien être séparé de Christ ». Alors, ça n'a aucun sens objectif, parce que ce n'est pas lui qui décide. Hein. Mais ça en dit long sur le fait que le « nous », le bien de tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés, eh bien, bien entendu, que c'est juif et non juif ensemble. Voilà. Sois béni, Seigneur. Tu nous fais mieux comprendre par tous ces mots, ces phrases que nous avons lues ensemble, tu nous fais mieux comprendre où est notre bien et qu'est-ce que ça veut dire que tout concourt à notre bien. Amen.